Studio Tamani, voici nos informations en français.
8h à Bamako et partout au Mali. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici la matinale. Au sommaire de cette édition préparative du baccalauréat 2022, les autorités scolaires se réjouissent d'avoir exécuté les programmes d'enseignement à plus de 90% et certains candidats se disent déjà optimistes. Le secteur du tourisme souffre à Banjagara et à Gao à cause de l'insécurité. Les acteurs culturels de ces deux régions demandent aux autorités de prendre des dispositions pour donner un nouveau souffle au secteur. Le dossier du jour s'intéresse à la peinture. Les Maliens manifestent peu d'intérêt pour cet art. Pourtant, des peintres essaient tant bien que mal de s'en sortir, notamment avec l'aide des réseaux sociaux. Tout de suite, le développement de ce titre avec Sekou Gadjigo, Gagné Kanté assure la mise en onde. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les épreuves du baccalauréat malien session de juillet 2022 débutent lundi prochain 18 juillet au Mali. En attendant, les préparatifs de l'examen se poursuivent normalement dans les lycées publics et privés à Bamako, mais aussi à l'intérieur du pays. Cette année, ils sont plus de 195 000 candidats inscrits. Des autorités scolaires affirment que les programmes d'enseignement sont exécutés à plus de 90%, une situation due, selon elle, à une année scolaire relativement stable constatée dans l'ensemble du pays. Les détails dans ce reportage de Khalifa Goïta.
À Bamako, les cours classiques dans les lycées publics et privés sont à l'arrêt. Une situation qui permet aux candidats des différentes filières au bac de s'exercer en groupe. Malgré la crainte des épreuves, ils sont pour la plupart optimistes.
Nous sommes là pour faire des séries d'exercices. C'est normal d'avoir peur. De toute façon, on a bien préparé, que ce soit en physique, chimie, en maths, en bio.
Nous, on a commencé de traiter des anciens sujets, ça fait des semaines. On a épuisé toutes les leçons comme programme, sauf la mathématique. Inch'Allah, on va avoir le bac.
On fait beaucoup d'exercices. Je pense que ça va aller. C'est ma deuxième fois de faire le bac. Très concentré même.
Au lycée Mamadou Sarr, en commune 4 de Bamako, 375 candidats s'apprêtent à faire le bac. Les responsables de ces lycées se réjouissent du bon déroulement des cours cette année. Selon eux, les autorités scolaires doivent tout mettre en œuvre pour maintenir ce cap. Abdramane Maïga, proviseur du lycée Mamadou Sarr.
Pour la première fois, nous avons dépassé les 95% d'exécution du programme. L'année scolaire 2022-2023 à venir. Si nous arrivons à avoir une année normale comme cette année, je pense que l'école malienne peut être placée sur les rails.
À l'intérieur du pays, les préparatifs vont bon train dans les établissements qui avaient auparavant certaines contraintes. Il s'agit notamment du lycée public de Urosso, où 158 candidats, dont 55 filles, préparent les bacs. Issiaka Kodjo, proviseur du lycée public de Urosso.
Tout est fin prêt. Vers le premier trimestre, on n'avait pas un professeur titulaire en histoire. On a pu avoir un professeur. En ce qui concerne physique-chimie, on s'est débrouillé avec le professeur titulaire. Maintenant, on a fait appel à un vacataire. On a aussi organisé des cours de rattrapage. Je crois que ça ne va pas tellement impacter.
Notons que dans le cadre des préparatifs du baccalauréat, des lycées privés organisent le bac blanc, un examen qui permet aux candidats d'avoir une idée de ce à quoi ressemble le vrai baccalauréat.
Vous pouvez donc réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Dans un communiqué publié hier mardi, le Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire a demandé la libération sans délai des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Selon les autorités ivoiriennes, leurs homologues du Mali étaient informés de l'arrivée de ces militaires. Pourtant, la veille, le gouvernement du Mali avait déclaré que ces militaires ivoiriens se trouvaient de façon illégale sur le territoire malien, ajoutant qu'ils sont considérés comme des mercenaires et seront remis à la justice. Il faut tout mettre en œuvre pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. C'est du moins ce qu'a demandé le Conseil national de transition au gouvernement dans un communiqué publié à la suite de la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'UMOA. L'organe législatif a exhorté le gouvernement à tenir le chronogramme électoral établi. Ali Cissé.
Dans un communiqué daté du 5 juillet dernier, le Conseil national de transition a déclaré avoir pris acte de la levée des sanctions de la CEDEAO et salue la résilience du peuple malien. L'organe législatif s'est aussi réjoui de l'efficacité du plan de riposte gouvernemental. Toutefois, le Conseil national de transition demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Ceci, conformément au chronogramme fixé, poursuit le document. Dans son adresse à la nation, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est réjoui également de la levée de l'embargo sur le Mali. Nous réjouissons que la tension née des divergences entre les exigences de la CEDEAO pour des élections rapides soit désormais dissipée, a souligné le chef de l'État. Dans son allocution, Assimi Goïta a précisé que le retour à l'ordre constitutionnel devrait se faire dans des conditions de sécurité et de stabilité. Le président de la transition, dans son discours, a appelé à l'union sacrée autour des intérêts supérieurs de la nation. Aussi, il a réitéré la volonté de son gouvernement de réaliser les réformes politiques et institutionnelles.
Explication signée Ali Cissé, 8h05 à Sébéninkoro, en commune 4 du district de Bamako. L'inauguration officielle de la clinique périnatale Mohamed VI a eu lieu jeudi dernier à Bamako. C'était sous la présidence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et en présence de l'ambassadeur du Maroc au Mali, Driss Isbayen, situé à Sébéninkoro, en commune 4 du district de Bamako. L'infrastructure a été entièrement financée par la Fondation Mohamed VI. Elle facilitera la prise en charge des femmes avec des grossesses risquées et les nouveau-nés selon les autorités sanitaires. Aïssata Diarra nous fait le point.
Pour Lassine Koulibaly, directeur général adjoint de l'établissement, la clinique possède un plateau technique très moderne qui permettra de réduire la mortalité infantile et néonatale.
Il y a une capacité de 12 couveuses pour la prise en charge des nouveau-nés qui comprend une imagerie, c'est-à-dire la radio et les scanners, un laboratoire bien équipé, une salle de réanimation qui comprend 6 lits, des blocs d'hospitalisation, il y a 2 blocs opératoires et 4 salles d'accouchement. La clinique a pour mission la prise en charge des grossesses à haut risque, la prise en charge des enfants jusqu'à l'âge de 5 ans.
La population de Sébéninkoro et certains patients que nous avons rencontrés se réjouissent de l'ouverture de cette clinique périnatale.
J'ai fait 20 jours à l'hôpital Gabriel Touré dû à des complications lors de l'accouchement. Aller tous les jours là-bas pour le traitement me fatigue, ensuite c'est coûteux car j'habite à Kanadjigila. C'est pourquoi j'ai apprécié l'ouverture de cette clinique.
Je suis là aujourd'hui pour le scanner de mon petit là. Hier je suis venu pour les renseignements et puis aujourd'hui je suis venu pour le rendez-vous. Ça commence.
Ça m'a fait plaisir, mais les temps sont durs. Qu'ils essayent de diminuer les frais de consultation pour permettre à tout le monde d'y accéder.
Bâtie sur une superficie de 5 hectares, la polyclinique périnatale Mohamed VI a été construite et équipée à hauteur de plus de 9 milliards de francs CFA financés par le Maroc.
Reportage signé Aïssata Diarra, direction Gao dans le nord du pays. L'artisanat a pris un coup depuis la crise de 2012 dans cette ville. En plus des difficultés pour l'approvisionnement en matières premières, le secteur est confronté à une concurrence rude avec des pays voisins. Le musée du Sahel de la cité des Askia aussi tente bien que mal de tenir. La structure souffre du manque de visiteurs étrangers qui est une source de revenus pour elle. Un reportage de Adama Amadou Aïdara de retour de Gao.
À l'entrée de la direction régionale de l'artisanat de Gao, un calme règne dans la cour. À l'intérieur, seul le directeur y est. De visu, pas assez d'activité, mais selon Sekou Oumar Diakité, directeur régional de l'artisanat de Gao, dans l'ensemble, le secteur se porte bien. Cependant, il précise que c'est l'artisanat d'art qui a des difficultés.
L'artisanat se porte à merveille, surtout l'artisanat de l'habillement du bâtiment. Mais quant à l'artisanat d'art, ça souffre des maux de l'occupation. Surtout d'abord, l'approvisionnement des matières premières et aussi la globalisation. Frontières algériennes, les frontières bourguignonnes, les frontières nigériennes sont poreuses. On a affaire à une concurrence rude de ces pays-là.
Qui dit art dit culture. Et la région de Gao, de par son histoire, est une ville qui était très convoitée par les touristes étrangers. Parmi les lieux à visiter, le musée du Sahel qui date de décembre 1981. Aujourd'hui, à cause de l'insécurité, les responsables de l'établissement ont trouvé comme solution la sensibilisation de la population pour s'approprier de leur musée. Abdoulaye Bonkana Maïga, directeur du musée du Sahel de Gao.
Peu de visiteurs qui viennent ici, c'est des missionnaires. des touristes quand même, on n'en parle plus depuis la crise. Pour le moment, tout ce qu'on fait ici est gratuit. Nous essayons de permettre, comme on appelle à la communauté, de s'approprier de la mise. Le peu d'accompagnement qu'on a, c'est l'État. Et depuis un certain temps, il revient maintenant aux collectivités de prendre la mise en charge. Nous pensons que dans peu de temps, les choses vont venir.
Les responsables des deux structures sont unanimes que c'est aux communautés de prendre en charge leur culture et les mettre en valeur.
Adama Amadou Aïdara, après Gao Cap sur Banjagara où l'insécurité a énormément impacté le secteur du tourisme et de la culture dans cette région du centre. C'est en tout cas ce qu'affirment des responsables de ce secteur. Pour eux, plusieurs personnes ont été touchées par cette insécurité grandissante. Ils demandent aux autorités de prendre des dispositions pour faire revivre ce secteur. Les détails dans ce reportage avec Sita Sidibé.
Pour Pierre Guindo, chef de la mission culturelle de Banjagara, les multiples attaques et les menaces des djihadistes ont creusé un grand fossé dans le secteur touristique à Banjagara.
Depuis 2009-10 jusqu'à maintenant, le secteur est beaucoup atteint par la crise que traverse le Mali. Depuis 2010-2011, l'arrivée des touristes, surtout les touristes internationaux, ont commencé à faire très rare. Et surtout quand il y a eu des attaques dans des hôtels et autres.
De leur côté, l'association des guides touristiques dit être la plus victime de cette crise multidimensionnelle qui traverse le pays. Pour son secrétaire général Amadou Walegem, tous les guides sont aujourd'hui dans le chômage.
Nous, étant guides touristiques, nous sommes les premiers victimes de ces multiples crises au Mali. Le chômage, je dirais. Le coût de ces crises a fait beaucoup de dégâts. Le tourisme est un secteur qui a apporté beaucoup de milliards de retombées.
Aminata Dite Antayolkui est la présidente des femmes artisanes de Banjagara. Elle dit être inconsolable après que l'insécurité dans la zone a mis fin aux échanges artistiques entre les femmes et les touristes qui fréquentaient ces localités.
Nous, on faisait les banjas, des pains d'ogon, des petits calebasses, des colliers. En tout cas, nous, les femmes, on faisait beaucoup de choses pour amener et que les touristes viennent payer. En tout cas, ça nous arrangeait beaucoup, surtout nous, les femmes, donc on ne sait pas comment faire.
A rappeler qu'après le secteur du tourisme et de la culture, le secteur agro-pastoral est aussi impacté par cette insécurité et regrette des observateurs.
Restons dans ce même registre pour parler à présent de la peinture. Les talents artistiques maliens ne se limitent pas qu'au secteur de la musique, la danse ou encore la mode. Il y a également la peinture, même si peu de Maliens s'y intéressent. Pourtant, des peintres passionnés de cet art s'accrochent pour gagner leur vie. Les nouvelles technologies sont pour eux une opportunité pour valoriser la peinture malienne à travers le monde. C'est le dossier du jour. Il est réalisé par Fatoumata Kodjo.
Fort en dessin dès le bas âge, Boubacar Baba Tantina s'est intéressé à la peinture. Selon lui, cet art permet de passer des messages de sensibilisation et à éduquer la population.
Très difficile de nous intégrer dans la société. Nous ne considérons pas tellement que nous travaillons sur des sujets spécifiques. On prend des sujets de la société. Donc à travers nos peintures, on fait passer des messages à travers ça. Donc on peut dire qu'on contribue aussi au développement de la société.
On dit souvent chez nous qu'il n'y a pas de métier facile. Et le métier de peintre ne déroge pas à cette réalité. Selon Boubacar Baba Tandina, la principale difficulté des peintres maliens reste l'acquisition de matériel de bonne qualité.
Donc on fait certains mélanges. Parfois on prend le colorant. Le colorant c'est une autre peinture qu'on met mélange avec la colle blanche pour que ça puisse se fixer. La bonne qualité même, c'est très difficile d'avoir ça ici.
Les nouvelles technologies viennent donc à point nommé pour certains peintres. Selon eux, cela permet d'ouvrir des horizons parfois inaccessibles. Noumouké Kamara, artiste, peintre et graphiste malien.
Une fois que j'ai fini une œuvre et que je le publie, que ce soit au Mali, en Afrique, en Europe ou aux États-Unis ou en Asie, tout le monde perçoit ça. Donc ça m'a ouvert beaucoup de visibilité. Avant, soit il fallait aller dans ce continent ou dans un pays-là pour exposer.
Des peintres demandent également l'implication de l'État pour mieux valoriser la peinture au Mali.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Actualité à l'intérieur du pays, les services de la mairie de Sikasso accompagnés par la police rendent propre la rue qui traverse le marché de Sikasso. Depuis hier 12 juillet 2022, l'activité consiste à saisir des tables et autres étals et à chasser des vendeurs encombrants. Selon les responsables de la mairie, l'objectif est de fluidifier la circulation sur cette voie et surtout protéger les commerçants et les acheteurs. La population salue cette cette action. À 8h passées de 14 minutes, se referme cette édition qui vous a été présentée par Sikou Gadjigo. Mise en onde Gagny Kanté, vous pouvez la réécouter sur notre site studiotamani.org ou en appelant sur la plateforme Viamo 37 321.